Le magazine du week-end. Oumi Diallo.
Bonjour et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30 pour cette émission préparée par Benjamin Trèves, réalisée par Anna Holweck et à la technique Olivier Arnay.
Cette année, il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis, il n'y aura pas pour le Canada, parce que les études coûtent cher. Vous m'avez voté pour vous dire la vérité, ça coûte cher. Et ceux qui viennent ici ne reviennent jamais au pays. Il va avoir son doctorat en médecine ou ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère travailler ici parce que ça paye mieux. C'est l'instinct de l'homme, il veut vivre, on le paye mieux. Donc à quoi ça nous sert de donner des bourses à des Gabonais qui viennent ici, qui vont rester ici? On préfère donner la bourse à quelqu'un qui va au Sénégal, au Ghana, au Maroc, parce qu'on sait qu'ils vont revenir. Donc si vous avez des enfants, orientez vos enfants vers le Sénégal, le Maroc, et ils vont revenir, ils auront des bourses. Parce que tous ceux qui ont la bourse ici ne reviennent pas.
Ils ne reviennent pas, ce sont les mots du président gabonais mi-juillet dans le cadre d'un dîner d'affaires organisé à la Maison Blanche face à des représentants de la communauté gabonaise aux États-Unis. Brice Clotaire-Olinguin-Guema a donc annoncé son intention de suspendre les bourses étudiantes vers les États-Unis et le Canada. Objectif, lutter contre la fuite des cerveaux. Une problématique qui concerne l'ensemble du continent africain. Mais est-ce la solution? Avec nous pour en parler, Hicham Jamid, sociologue spécialiste des migrations pour études, bonjour. Et Antoine Glaser, journaliste et écrivain spécialiste des études africaines, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on écoute celle de ceux qui décident un jour de partir pour ne plus revenir. Pas par plaisir. Pour ces étudiants, c'est une décision difficile, dont il est encore plus difficile, parfois impossible, de parler publiquement. Vous allez comprendre pourquoi. L'une d'elles a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Nous l'appellerons Clara. Elle est gabonaise, elle a 21 ans et elle étudie à Paris. Bonjour Clara.
Bonjour Omi.
Alors déjà, pourquoi vous êtes venue faire vos études en France?
À la France, déjà parce que on a une histoire commune, on partage une langue commune. Et aussi, on a l'habitude d'avoir des interactions avec la France. Donc oui, c'était assez simple. Et également pour la qualité de la formation. En France, les universités françaises sont assez reconnues dans le monde. Et en fait, les frais d'inscription ne sont pas comme dans les grandes écoles américaines, par exemple. Donc ça reste accessible quand même à un grand nombre de personnes.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous témoignez sous couvert d'anonymat?
Alors, je préfère témoigner de façon anonyme parce que je ne souhaite pas en fait que cela soit repris et que cela puisse avoir un impact négatif si par exemple je souhaite rentrer dans mon pays par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui pourrait se passer?
Il pourrait y avoir des interprétations. Et c'est assez facile hein, de retrouver les personnes grâce à leur nom de famille, de contacter les familles. Donc, il y aura quand même un petit coup de pression. On vit dans une culture où il ne faut pas forcément remettre en cause la parole des aînés, des autorités. Et également, il n'y a pas forcément cet espace de liberté où on peut dire qu'on n'est pas forcément d'accord ou qu'on a des petites réticences parce que après derrière il y aura des appels, des petits coups de pression de la famille. Oui, mais pourquoi tu t'es exprimé de la sorte? Pourquoi tu as dit ça?
C'est mal vu de se plaindre?
Pas de se plaindre, mais de remettre en cause ce qui a été dit par
une
les
parole
autorités.
Officielle, par exemple, voilà, là, pour parler clairement, le fait de commenter une annonce présidentielle, ce serait mal vu.
Ça dépend, mais je pense que pour un jeune qui n'a pas encore débuté dans la vie professionnelle et qui n'a pas les côtes solides, je pense que ce ne serait pas recommandé.
Est-ce que la question de poursuivre de hautes études au Gabon s'est posée pour vous?
Je vais être honnête, Pas du tout, parce que justement, les universités françaises ont une meilleure réputation. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui souhaite avoir plus d'ouverture au niveau mondial, hein, pas qu'en France, ou même, par exemple, au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays, il est un peu plus facile de présenter un diplôme français qu'un diplôme provenant d'un pays africain. Je pense qu'on peut aussi parler de cette problématique-là, du fait que ces diplômes-là ne sont pas forcément reconnus à l'étranger, en fait. Et que ça aussi, ça peut être un facteur, en fait, qui pousse les jeunes à plutôt, en fait, orienter vers les universités occidentales.
Et quel est votre regard sur cette annonce du gouvernement de suspendre les bourses vers le Canada et les États-Unis ?
Bon, je pense qu'avant de se poser la question de la suspension, en fait, des bourses, il faut d'abord se poser la question pourquoi, en fait, les étudiants ne reviennent pas, en fait. Parce que c'est l'argument qui a été avancé par le président gabonais. Il est pertinent de préciser que d'après la Banque mondiale, le taux de chômage chez les jeunes au Gabon, il est à peu près estimé à près de 40%. Ces jeunes-là qui ont investi de leur temps, de leur énergie, en fait, dans leurs études, n'ont pas la certitude qu'en rentrant, ils auront, en fait, assez d'opportunités, en fait.
Et vous, personnellement, est-ce que vous avez l'intention de rentrer au Gabon après vos études ?
Je suis convaincue que l'Afrique n'a pas besoin de plus de diplômes parce qu'il y a déjà énormément de personnes qui ont des doctorats, qui ont des masters. Je pense que l'Afrique a besoin de compétences. Et comment s'acquiert les compétences ? Les compétences s'acquièrent par le travail. Donc c'est pour cela que je pense qu'il est plus intéressant, par exemple pour certains étudiants, de d'abord rester en Occident, de travailler, d'acquérir de véritables compétences et de rentrer des années plus tard en apportant vraiment un véritable savoir-faire.
Et dans un monde idéal, quel est votre rêve, Clara ? Là, par exemple, si on parle de ce sujet des études, du travail ?
Mon rêve, ce serait vraiment que les gouvernants puissent véritablement essayer de créer beaucoup plus d'opportunités économiques, pas forcément dans le public, hein, surtout dans le privé, pour que les jeunes puissent retourner dans leur pays d'origine et véritablement contribuer. Si on a un diplôme, mais qu'on n'est pas sûr de pouvoir trouver un emploi dans le domaine qui nous intéresse, véritablement, c'est un frein. En fait, moi, je pense sincèrement que on ne peut pas faire peser la responsabilité du non-retour aux étudiants. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a une part de responsabilité. Peut-être qu'on n'est pas très apte à prendre des risques. Peut-être qu'on devrait être plus courageux. Peut-être qu'on devrait sortir de notre zone de confort. Oui, peut-être. Mais le problème, ce n'est pas que les étudiants décident de rester. Le véritable problème, c'est-à-dire le nerf de la guerre, si je puis m'exprimer ainsi, c'est l'absence d'opportunités économiques. Parce qu'en réalité, s'il y avait des opportunités, les étudiants rentreraient. Donc ce n'est pas véritablement une question d'ingratitude ou une volonté de profiter. Je connais plein de personnes qui souhaitent rentrer, même des gens qui sont dans leur quarantaine. Mais qu'est-ce qu'on leur propose ? Donc je pense qu'au plus profond de nous, au plus profond de chaque Africain, il y a une volonté de servir son pays, il y a une volonté d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais comme je l'ai dit, il faut des conditions. Il faut des conditions.
De retour en direct en compagnie d'Hicham Jami, de sociologue spécialiste des migrations pour études que nous avons retrouvé, et d'Antoine Glaser, journaliste et écrivain spécialiste des études africaines. Messieurs, tout d'abord une réaction à ce témoignage. Hicham Jami, dont on vient de l'entendre, hein, on ne peut pas faire peser la responsabilité du non-retour aux étudiants. Le vrai problème, c'est l'absence d'opportunités. Alors, il y a votre analyse de chercheur et il y a aussi votre subjectivité d'homme directement concerné par le sujet, n'est-ce pas ?
Bonjour. Merci bonjour. Beaucoup pour l'invitation et bonjour aux éditeurs et auditrices de France Culture. Alors, par quoi vous voulez que je commence ? Par la deuxième partie ou la première ?
Au niveau du témoignage de cette jeune fille qui estime qu'on ne peut pas faire peser la responsabilité du non-retour sur les étudiants.
Moi, je suis complètement d'accord parce que déjà, il faut savoir que la mobilité, de manière générale, c'est une décision individuelle. Et que les personnes, ils ont le droit de partir se former ou travailler dans d'autres pays dans lesquels ils estiment que la formation elle est beaucoup plus intéressante ou complète que celle dans leur pays d'origine. Et puis, une fois diplômés, c'est à eux de décider s'ils veulent rester ou rentrer. Donc, moi, je m'inscris complètement et je partage un peu l'avis de cette étudiante que c'est pas la responsabilité de l'étudiant, enfin, une fois diplômé, de rentrer ou de ne pas rentrer. Donc,
oui, et on le voit. Ce problème d'absence d'opportunité qu'elle pointe également.
Oui, exactement. Une fois rentré. Et parfois, les étudiants, s'ils arrivent, par exemple, juste après l'obtention de leur baccalauréat, ils arrivent, par exemple, si je prends juste l'exemple de la France, c'est en France qu'ils vont avoir leur première socialisation professionnelle, c'est-à-dire ils vont prendre goût à certaines façons de faire, ils ont aussi des projections dans de types de carrières, et parfois ils se retrouvent, même s'ils essaient de rentrer dans leur pays, ils se sentent complètement en décalage avec la culture de l'entreprise dans leur pays d'origine. Et du coup, le retour, il devient beaucoup plus difficile, et parfois ils sont diplômés dans des formations dans lesquelles il n'y a pas d'opportunité de travail dans leur pays d'origine. Oui, quelqu'un qui est diplômé, je sais pas, en architecture navale, il trouvera pas forcément du boulot directement s'il rentre au Sénégal ou au Ghana, quoi.
Antoine Glaser, que vous inspire le témoignage de cette étudiante gabonaise en France, en particulier ce drame du chômage, 35 à 40%, comment l'expliquer?
Ben, on comprend bien. Je veux dire, c'est pas moi, en plus, le petit français des bords de Seine qui va dire si la déclaration du président gabonais est juste ou pas. On peut simplement expliquer les choses. Et c'est vrai que s'il a parlé des États-Unis, en particulier du Canada, c'est vrai qu'aux États-Unis, en plus, il y a très peu d'étudiants gabonais. Aux États-Unis, il n'y en a pas plus que 250. Simplement, ce sont des universités comme Harvard où les prix avec le logement, c'est 100 000 dollars par an, c'est 90 000 euros. Donc, c'est vrai qu'un certain nombre de boursiers, et très souvent, d'ailleurs, ce sont pas les plus pauvres, c'est évident que compte tenu du manque d'emplois à leur niveau, ensuite au Gabon, ils vont pas rentrer. Et c'est vrai que, même s'ils sont, il y en a environ 6500 au Maroc, il y a que 6000 étudiants gabonais en France. Mais je veux dire, on voit bien qu'il y a toute une stratégie aussi politique, évidemment, du président Ligui N'Guema. Ça veut dire, ça fait partie un peu de ce souverainisme Gabon d'abord. Et il a choisi les boursiers, évidemment, les plus riches qui bénéficient des universités les plus exceptionnelles.
Et oui, justement, je me permets de rebondir. Hein, le président gabonais a annoncé privilégier des pays africains comme le Sénégal, le Ghana ou le Maroc. Alors, on le sait, hein, les bourses sont aussi un outil d'influence. Est-ce qu'il faut y voir un signal politique plus large? Gabon d'abord
Absolument. À mon avis, cette décision, ça s'inscrit dans la décision qui a été prise très récemment d'interdire un certain nombre de ce qu'on appelle du commerce de proximité aux étrangers. Ça participe aussi au souverainisme ambiant en Afrique. Ça veut dire Afrique d'abord et Gabon d'abord. Donc, ils vont bien sûr privilégier que des étudiants aillent au Maroc ou au Sénégal. Mais il y a aussi très récemment, dans tout le domaine des matières premières, où, à juste titre d'ailleurs, de plus vouloir exporter, par exemple, le manganèse, en l'état, mais de vouloir transformer sur place le manganèse. Le Gabon vient de récupérer aussi un certain nombre de ces gisements pétroliers. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une ambiance, mais il faut voir pays par pays. Le Gabon, ça a été un pays qui a tellement de richesses pétrolières, minières, et forestières, que ce pays, il y a une trentaine d'années, les grands-parents des étudiants actuels, quand ils rentraient au pays, à l'époque, maintenant, il y a environ 2,5 millions d'habitants au Gabon. À l'époque, il y avait à peu près 1 million d'habitants. L'ensemble des étudiants, à un certain niveau, c'est l'État. Ils étaient employés par l'État. C'est-à-dire, l'État avait les moyens, avec des ressources aussi importantes, de les intégrer dans l'administration. Évidemment que c'est plus du tout le cas, et c'est ce changement complet, finalement, avec la démocratie, avec le taux de chômage. En plus, c'est un pays où le budget de l'éducation est assez faible pour un pays à revenu intermédiaire par rapport aux autres pays africains. Donc, on comprend bien cette stratégie politique du président, avec des réalités, encore une fois. Bien évidemment, si vous voyez, tout le monde sait que quand on voit dans nos hôpitaux le nombre de médecins qui font les gardes de nuit sur les médecins africains, on voit bien dans un certain nombre de secteurs
de l'informatique et autres. On va y venir justement à cette question, on va ouvrir...
Qui ne rentre pas dans les pays, c'est une évidence, mais là c'est une déclaration très politique par rapport à une ambiance générale au Gabon.
Justement, sur cet aspect politique, Hicham Jamid, pour vous, cette volonté de rapprochement avec d'autres pays africains s'explique aussi par un affaiblissement de l'attrait pour l'Occident, en particulier les États-Unis. Plusieurs raisons à cela. On peut citer les propos de Donald Trump, qui, selon le Washington Post, avait insulté plusieurs nations africaines de pays de merde en 2018. Et en juin dernier, l'entrée en vigueur du travel ban, l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les ressortissants de 12 pays, dont 7 africains officiellement, pour protéger les États-Unis de terroristes et de menaces pour la sécurité nationale. Tout ça aurait contribué à refroidir, les opinions publique africaine quant aux rêves américains. C'est ça, Hicham Jamid ?
Alors, je vais réagir à ces déclarations de Donald Trump, mais aussi à celles du président gabonais, pour dire que c'est que de la spéculation politique. Mm-hmm. Déjà, lorsqu'on fouille dans les chiffres, on va voir que le nombre de bourses accordées aux étudiants gabonais ou marocains ou sénégalais pour poursuivre les études supérieures à l'étranger, ils sont vraiment très, très minimes. Il faut les compter en dizaines à peine. Et il faut dire aussi que les mobilités pour études restent des mobilités très sélectives socialement et économiquement. Alors sur le deuxième aspect là de votre
la diminution de l'attrait peut-être.
Oui, en fait, moi, dans mes travaux actuels, je travaille sur une notion de décentrement en cours des imaginaires migratoires des étudiants africains qui ne se projettent plus exclusivement vers des destinations traditionnelles des pays du Nord global, notamment le Canada, les États-Unis et même la France ou d'autres pays européens, mais qui s'orientent de plus en plus vers des destinations dans les pays, ce qu'on appelle des pays du Sud global, notamment la Chine, la Turquie, mais aussi au niveau intra-africain. Et là, actuellement, je travaille sur l'émergence du Maroc et du Sénégal comme des pôles d'attraction de plus en plus importants des mobilités étudiantes intra-africaines, surtout pour les étudiants africains qui ne veulent plus aller dans l'Occident parce qu'ils ne trouvent pas nécessairement nécessaire d'aller, par exemple, en France ou aux États-Unis pour avoir un diplôme étranger, alors qu'on a aussi des formations aussi très pertinente et complète dans ces pays-là, ou certains qui ne veulent plus aller en Occident, justement à cause de la restriction de politique migratoire, comme c'est le cas en France notamment et aux États-Unis, mais aussi la montée de ce populisme des différents acteurs politiques, la montée de discours de haine, la montée de discours contre l'immigration, surtout celle en provenance des pays du Sud, la montée de l'islamophobie. Donc l'Occident n'est plus attrayant comme avant pour ces étudiants africains qui maintenant ont aussi des destinations alternatives, si je peux dire, et qui peuvent même se présenter dans des pays comme le Sénégal et le Maroc.
Alors justement, le Sénégal et le Maroc, c'est... Tout le monde n'est pas d'accord, notamment au Gabon, puisque l'annonce du président a provoqué de vives réactions sur place. Patrick Eyogo Edzang, ancien ministre gabonais de l'eau et de l'énergie, dont les enfants sont eux-mêmes diplômés de grandes écoles de commerce françaises, a déclaré dans le Point Afrique « On ne peut pas aller étudier au Maroc ou au Sénégal pendant que les Marocains et les Sénégalais vont, eux, se former en France. Ça n'a pas de sens. Pour l'instant, on ne peut pas se priver de l'Occident pour former nos élites. » Hicham Jamid, qu'en pense vous, est-ce qu'il n'y a pas un risque de déclassement pour les étudiants gabonais ?
En fait, plusieurs collègues, notamment, ça me fait penser aux travaux de Jean-François Bayard, qui parle justement de l'émergence d'une nouvelle figure de l'élite africaine qui est née justement des processus de privatisation et de néolibéralisation qui traversent les sociétés africaines aujourd'hui, et dans lesquelles c'est plus la figure du financier, du manager, de l'homme ou de la femme d'affaires qui représente la figure légitime aujourd'hui de la réussite par rapport aux d'autres figures traditionnelles du politicien réputé tribaliste, du haut fonctionnaire corrompu ou du militaire professionnel de la violence. En fait, c'est vrai que Ces destinations restent des alternatives, notamment par leur proximité géographique, par rapport au coût de la mobilité. Comme j'ai dit, tous les étudiants africains qui partent à l'étranger ne sont pas boursiers. Donc souvent, c'est un investissement familial et parfois même c'est de l'endettement familial pour envoyer son enfant poursuivre des études supérieures à l'étranger. Et aujourd'hui, en fait, des pays comme le Sénégal et le Maroc, notamment à cause de ou grâce à l'ouverture de leur système d'enseignement supérieur justement à des établissements privés, notamment occidentaux, eh ben, ils profitent aussi de cette dynamique de délocalisation d'offres de formation internationale occidentale qui se délocalisent au Maroc et au Sénégal. Et ces établissements attirent à la fois les étudiants nationaux, c'est-à-dire marocains et sénégalais, mais aussi des étudiants africains issus des autres pays de l'Afrique subsaharienne.
Et alors, on le disait en début d'émission, vous êtes aussi directement concerné par le sujet. Si je vous demande de mettre votre casquette de migrant, quel est votre regard sur cette situation, votre expérience personnelle ?
Alors, moi, je suis marocain. Je suis arrivé en France en 2015 pour faire ma thèse en sociologie et en co-tutelle, bien sûr, avec mon université d'origine à l'université d'Agadir. Et mon sujet de thèse était la mobilité de Marocaines et Marocaines qui viennent en France pour faire des études supérieures. Et je comparais, une fois qu'ils et elles sont diplômés, les parcours de celles et ceux qui choisissent de rester en France avec les parcours de celles et ceux qui décident de retourner au Maroc. Bah, comme tous les autres étudiants, moi aussi, j'avais cette idée de juste venir en France, prendre mon diplôme et rentrer au Maroc parce que mon pays a besoin de moi. Mais justement, c'est une question que j'analyse dans mon travail. Il y a tout ce processus de ce qu'on appelle la bifurcation biographique aussi de ces étudiants. C'est-à-dire, on renonce à certaines choses, on acquiert d'autres, on remet aussi en cause, en question, notre projet migratoire. Et parfois, on va retarder cette question de retour et parfois, il disparaît complètement. Donc moi, je suis dans cette dynamique-là, dans le sens que, à l'issue de ma thèse, je suis, dans un processus de recherche, notamment là, actuellement, en post-doc.
Et puis,
peut-être un jour rentrer, mais moi je pense que il y a pas de retour.
Pour l'instant, vous êtes en France ?
Actuellement, je suis en Suisse.
En Suisse.
Du coup, je commence un nouveau contrat là, à l'université de Neuchâtel. Mais ça ne veut pas dire que je suis pas en connexion avec le Maroc. J'y retourne souvent, j'y travaille, j'y enseigne. Et je pense que on n'est jamais installé définitivement dans les pays d'immigration. Et pour celles et ceux qui rentrent, ils rentrent jamais définitivement. Mais on est plus dans une sorte de circulation entre notre pays de formation, notre pays d'origine et d'autres espaces encore.
Et je le disais un peu plus tôt, cette annonce d'une suspension en 2026 des bourses vers les États-Unis et le Canada a suscité de vives réactions, et pas seulement politiques, mais dans la population. Face à la polémique, le ministère gabonais de l'enseignement supérieur a publié un communiqué officiel pour annoncer une possible exception concernant les filières stratégiques pour le développement national, comme la transformation des matières premières, l'agronomie, le numérique et le digital, l'aéronautique ou encore certaines spécialités médicales. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de souveraineté énergétique ou alimentaire s'agissant de l'Afrique, mais on le voit bien, la souveraineté éducative est un enjeu décisif. Le continent en est loin. Comment les pays africains peuvent-ils construire un système éducatif qui forme leurs élites pour leurs propres besoins plutôt que pour l'exportation, Antoine Glaser ?
C'est toute la complexité, c'est vraiment la complexité de cette adéquation entre ces formations et puis les réalités locales. On voit bien qu'au niveau du gouvernement gabonais, évidemment, ils vont choisir les secteurs des matières premières parce que c'est vraiment l'essentiel de l'économie du pays. Mais encore une fois, si un certain nombre d'étudiants africains, on dit, ils sont nombreux à aller au Sénégal ou au Maroc, mais la réalité vraie, c'est que l'Occident, et en particulier la France, est bunkérisé, que c'est extrêmement difficile d'avoir des visas en tant qu'étudiant pour venir en France, et donc ça ne veut pas dire que c'est un choix de l'ensemble des étudiants africains de rester sur le continent. Et le problème, c'est finalement, il n'y a pas du tout de libre circulation. Donc on fait croire qu'on peut venir comme ça en Occident, mais en fait, c'est pas du tout une réalité. Mais il va y avoir un gap pendant très longtemps entre les réalités économiques locales et puis l'éducation, la formation et les possibilités d'emploi. Encore une fois, c'est des pays, un pays comme le Gabon, il n'y a que 2,5 millions d'habitants, il y a des richesses absolument extraordinaires et c'est absolument anormal qu'il n'y ait pas un budget de l'éducation, de formation qui soit beaucoup plus important pour justement cette masse finalement de cette jeunesse. Enfin, il faut quand même rappeler que 60% de la population du Gabon a moins de 25 ans. Donc, oui. C'est eux qui devraient être vraiment l'objet des priorités du pays.
Absolument, ça pose question. Hicham Jamid, sur cette question de la souveraineté éducative.
Bah, je peux juste dire que lorsqu'on regarde les chiffres, la demande en éducation est la plus importante, elle est en Afrique aujourd'hui, justement parce que c'est une population jeune et qui est en âge de suivre des études supérieures. Et c'est pour ça que et ce qui fait de l'Afrique aujourd'hui aussi un marché éducatif à conquérir. Et vu que certains États, malheureusement, n'arrivent pas à combler le déficit dans leur système éducatif, ça ouvre la porte à des investisseurs étrangers, notamment des pays occidentaux, qui vont investir dans l'éducation dans ces pays-là. C'est le cas, par exemple, on le voit avec, on parle même du soft power éducatif de pays comme la Chine, comme la Turquie, qui va aller investir dans les projets d'aide au développement dans l'éducation, à subventionner des bourses aux étudiants, à favoriser la collaboration et la coopération éducative.
Pamela Badjojo, musicienne, chanteuse et compositrice gabonaise d'afro-jazz. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le magazine du week-end. Chaque année, plus de 430 000 étudiants africains poursuivent leurs études hors du continent. C'est, selon l'UNESCO, la région au monde avec le plus fort taux de mobilité étudiante à l'international. Hicham Jamid, cela varie selon les sources, hein, mais le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en Afrique est estimé à environ 15 à 16 millions de personnes. J'imagine qu'ils ne partent pas tous en Occident. Vous en avez déjà parlé un petit peu pour étudier.
Oui. Alors, il y a le dernier chiffre de l'UNESCO, justement, il parle de 6,4 millions d'étudiants en mobilité à l'échelle internationale et 10% sont des étudiants africains, enfin d'origine africaine. Mais il faut préciser, parce que souvent on dit que le taux de mobilité des étudiants africains représente 4,8%, c'est-à-dire un peu le double de la moyenne internationale, mais ça ne veut pas dire que les étudiants africains bougent plus que les autres étudiants, parce qu'une grande partie justement, elle est dans une mobilité régionale, c'est-à-dire intra-africaine, et il n'y a qu'une infime proportion qui quitte le continent pour aller dans un autre continent. Et ça est lié aussi, il faut le voir, à l'échelle, vous venez de l'évoquer, de l'augmentation continue de l'ombre des étudiants de manière générale. Mais lorsqu'on compare combien d'étudiants, de la démographie d'étudiants de manière générale, mais lorsqu'on compare combien, par exemple, si je prends le cas du Maroc que je connais le plus, aujourd'hui, on estime qu'il y a 1,2 million d'étudiants marocains qui suivent une formation post-baccalauréat, mais il y a seulement 6% qui quittent le Maroc pour aller poursuivre des études à l'étranger. Et là, je reviens à l'idée que ça reste une mobilité internationale très sélective, socialement, mais aussi économiquement.
Et oui, en ça plus, coûte cher de partir, hein, c'est toute une organisation.
C'est très cher. C'est très cher, en plus, avec les politiques de visa. Pour un étudiant étranger qui souhaite venir, par exemple, en France, il doit avoir sur son compte bancaire 7 000, voire 8 000 euros bloqués sur son compte bancaire, plus toutes les démarches kafkaïennes de demande de visa, et une fois arrivé en France, toutes les démarches d'obtention d'un titre de séjour, dans son renouvellement, toutes des démarches administratives qui laissent à désirer, quoi.
Hicham Jamid, votre dernière étude est à paraître, hein, Migrer pour un diplôme, Marocain formé en France entre retour et non-retour. Est-ce qu'il existe des statistiques concernant justement ce taux de retour au pays ?
Bah justement, malheureusement, il n'y a pas de statistiques. On sait combien d'étudiants, par exemple, marocains, qui partent tous les ans en France. On peut retrouver les chiffres au niveau du ministère de l'Intérieur français, au niveau des chiffres de l'agence Campus France. Mais une fois diplômés, on ne sait pas combien d'étudiants diplômés marocains, par exemple, qui retournent. Mais ce qu'on peut voir de manière aussi sociologique, c'est qu'il y a des retours, et moi, je les ai rencontrés dans, par exemple, des forums de recrutement, ce qu'on appelle des job dating organisés par des entreprises nationales marocaines ou par des entreprises internationales basées au Maroc qui organisent des forums de recrutement à Paris, à Londres, à Montréal, à Dubaï, pour essayer de proposer des opportunités d'emploi au Maroc pour des diplômés marocains, mais aussi des diplômés africains qui sont intéressés par des opportunités d'emploi au Maroc. Donc c'est une réalité sociologique qui existe, mais dont malheureusement, lorsqu'on parle de ce type de mobilité internationale, on l'aborde souvent au prisme de départ, comme une mobilité à sens unidirectionnel, alors qu'il y a des retours et des circulations.
Oui, absolument. Et l'immigration des travailleurs attirés par une vie meilleure ne date pas d'aujourd'hui. La fuite des cerveaux est une traduction de l'expression « brain drain », littéralement « drainage des cerveaux », utilisée pour la première fois au début des années 60 par la Royal Society of London, l'équivalent de l'Académie des sciences, pour décrire la fuite des scientifiques et ingénieurs britanniques vers les États-Unis et le Canada, déjà.
France Culture, le magazine du week-end. Oumi Diallo.
Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les pays africains dépensent chaque année 4 milliards de dollars pour compenser le départ de leur personnel qualifié. Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale en 2050, le Fonds monétaire international augure que l'Afrique pourrait perdre 35 millions de travailleurs qualifiés au profit des pays du Nord. Antoine Glaser, vous qui observez depuis longtemps la fabrique des élites africaines et leurs relations avec l'étranger, dans quelle mesure la fuite des cerveaux affaiblit-elle les États africains ? Certains parlent même d'une nouvelle forme de pillage.
Oui, c'est absolument, c'est énorme. Moi, je suis pas un statisticien, mais je veux dire, c'est évident. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il suffit de regarder un peu dans nos hôpitaux, un certain nombre de structures, mais il faut aussi reconnaître que parmi les diasporas en France, vous avez toujours eu un plafond de verre. Vous n'avez pas quand même de Français, même d'origine, même de Français d'origine africaine, qui ont accès comme ça à des postes de responsabilité dans les grandes entreprises, Areva, EDF ou autres. Total, vous aviez un secrétaire général, mais ça reste quand même très faible par rapport, en plus, à des entreprises qui travaillent dans les pays africains. Mais on n'a pas beaucoup parlé de cette Afrique qui se mondialise aussi, parce que on parle toujours de la France, des États-Unis, etc. Mais il faudrait aussi parler de la Turquie qui est en train de monter en puissance dans les économies africaines, les infrastructures.
Oui, Hicham Jamid l'a évoqué, ces investissements sur place.
Absolument, mais il a absolument raison. Tout à fait, il a raison, parce que on n'a pas, moi, alors franchement, ça demandera un gros travail, mais il faudrait savoir, par exemple, la Turquie, dans leurs infrastructures, ils sont extrêmement actifs maintenant, la compagnie aérienne, la Turkish Airlines, elle est quasiment sur l'ensemble du continent, et eux, ils veulent former des Africains pour leur propre, pour être encore plus forts sur ce continent. Donc eux, contrairement finalement à un certain nombre d'Occidentaux,
eux, à mon avis, ils vont favoriser à un moment donné ou à un autre le retour des gens qu'ils auront fermés sur ce continent, mais qu'ils auront formés, bien évidemment, pour leur propre stratégie et leur propre technologie. À mon avis, c'est ce que va faire la Chine. Les Japonais aussi sont en ce moment en train d'essayer de résister à la concurrence chinoise sur ce continent. Et c'est évident que même, je pense que c'est une erreur stratégique vraiment de Donald Trump, des Américains, de pas former plus d'étudiants africains, parce qu'ils s'intéressent aux matières premières, en particulier tout ce qui est les terres rares, parce que maintenant les Chinois refusent d'exporter leurs terres rares aux États-Unis, mais c'est les enjeux dans les pays comme la République démocratique du Congo ou sur l'ensemble du continent. Et s'il y avait plus finalement de cadres africains formés, bien évidemment que ça leur permettrait d'avancer dans leurs projets.
Hicham Jamid, vous réfutez ce terme de fuite des cerveaux, pourquoi ?
Alors, je le trouve, cette expression, je la trouve extrêmement violente, voire contre-productive. Déjà, lorsqu'on parle de fuite, on est en train de blâmer la personne, alors que c'est un projet migratoire réfléchi et qui nécessite mobilisation de ressources financières et puis mobiliser toute la famille, voire même toute la tribu. Et puis, limiter ces gens qu'à leur cerveau, alors j'imagine que vous devinez que tous les autres ont un cerveau, c'est vraiment contre-productif. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent lorsqu'on parle de ce profil ou ce type de mobilité, on le pense qu'au prisme de départ. Mmh. Et vous l'avez évoqué, cette expression remonte aux années 60 pour parler justement des Britanniques qui quittaient la Grande-Bretagne pour aller aux États-Unis, pour dire que ce phénomène, il concerne aussi bien les pays du Nord global que les pays du Sud global. Le nombre aujourd'hui de médecins, infirmiers français qui quittent la France aujourd'hui pour trouver meilleures opportunités d'emploi au Canada.
2,5 millions de Français établis à l'étranger, dont 58% sont titulaires d'un diplôme supérieur.
Exactement. Et puis, ça fait penser même à un économiste indien, Jadid Bharati, qui voulait même imposer une taxe pour ces migrants hautement qualifiés qui quittent leur pays d'origine et qui s'installent à l'étranger. Ils doivent payer une sorte d'impôt à leur pays d'origine et qui doit, soi-disant, compenser ou rembourser l'investissement que leur pays a mis à disposition pour leur éducation et leur formation.
Oui, et parmi les ponts que vous évoquiez avec les pays d'origine, il y a les envois d'argent qui représentent des sommes très importantes, hein, 95 milliards de dollars en 2024, c'est l'équivalent de l'aide au développement. Ça, vous estimez que c'est un aspect positif ?
Ben justement, et même la recherche scientifique, en tout cas dans les études migratoires, l'ont montré. On est passé justement du brain drain au brain gain, au gain des talents et de compétences. Et les travaux, ils ont montré l'envoi d'argent, mais pas que. Par exemple, si je prends le cas du Maroc, le Maroc a mis en place depuis les années 90 ce que j'appelle une politique d'attention qui vise particulièrement ce profil de Marocains. Et du coup, il a renoncé à l'idée d'un retour définitif de ces Marocains hautement qualifiés et expatriés pour opter par ce que les collègues appellent l'option diaspora. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Marocains hautement qualifiés, si je prends que le cas du Maroc que je maîtrise, bien sûr, ils forment une diaspora scientifique et technique que le Maroc essaye de mettre en lien avec les Marocains aussi hautement qualifiés formés au Maroc et qui travaillent au Maroc pour bénéficier les uns et les autres de leur réseau, de leur savoir, de leur savoir-faire, de leurs compétences techniques et scientifiques au profit du Maroc. Et le Maroc a mis en place plusieurs initiatives dans ce sens-là.
Merci Hicham Jamid, on va s'arrêter là, c'est passionnant, mais le temps manque. Sociologue spécialiste des migrations pour études. Et merci Antoine Glaser, journaliste et écrivain spécialiste des études africaines. Et avant de retrouver Fabienne Lemayeux, If We Get Lost, They Will Find Us, de Rokia Kone et Loni Olé.
If we get lost, if we, if we get lost, they'll find us. If we get lost, they'll find us. They'll find us.
they'll find us.
Nyuma binyana tomo ifani bala ambena nyuma nido tomo kuke itadi nyimo binyana tomo la.
C'est maintenant l'heure d'accueillir Fabienne Lemayeux, rédactrice en chef à La Croix, pour sa dernière, hélas, chronique du samedi. Bonjour Fabienne.
Bonjour Oumi.
Fabienne, vous restez en Afrique, mais pour nous parler de la politique de Donald Trump qui s'annonce brutale.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Trade not aid, le commerce plutôt que l'aide. Le mantra préféré du président américain s'applique aussi à ses relations avec l'Afrique. Et les premières mesures de son second mandat ont instauré d'emblée un rapport de force inégalitaire, que ce soit la suppression des aides au développement ou le rehaussement des droits de douane. Le terrain est ainsi plus que favorable au gouvernement américain, qui compte même négocier le transfert dans ses pays d'étrangers expulsés des États-Unis. Notre journaliste en charge de l'Afrique, Vinciane Joly, raconte, dans un article paru aujourd'hui sur le site de La Croix, comment l'Ouganda vient de rejoindre la petite mais croissante cohorte de pays africains ainsi sollicités par l'administration Trump pour y transférer des migrants susceptibles d'être déboutés du droit d'asile.
Mais en quoi consistent exactement ces expulsions ?
Il s'agit de véritables deals migratoires, d'un genre un peu particulier, puisqu'il s'agit d'envoyer des hommes et des femmes dans un pays qui n'est pas le leur. En juillet, 8 hommes condamnés par la justice, originaires du Laos, de Cuba, de Birmanie, du Mexique et du Vietnam, ont ainsi été forcés de rejoindre le Soudan du Sud, pays au bord de la guerre civile, après que leur propre pays d'origine a refusé de les reprendre.
Et ce type de partenariat n'est pas une première pour Donald Trump.
En effet, on le sait, Washington a déjà conclu des accords similaires avec certains pays d'Amérique latine, le Salvador ou plus récemment le Honduras. Le contrôle des flux migratoires est une obsession de la nouvelle administration américaine et ses partenariats avec des pays tiers en constituent l'un des piliers. Début juillet, Donald Trump recevait 5 chefs d'État africains au menu tout à la fois la richesse des sous-sols aux minerais convoités et le renvoi vers ces pays des migrants irréguliers.
J'imagine qu'il y a des contreparties à cet accueil.
Bien sûr, Donald Trump est un businessman et le transfert de migrants est pour lui une négociation comme une autre. Aucun détail n'a été révélé sur d'éventuelles contreparties financières, mais peut-être a-t-il fait la promesse que les ressortissants des pays ayant accepté le deal ne seraient pas frappés par le travel ban dont vous parliez, cette interdiction d'entrée aux États-Unis qui touche beaucoup de pays africains. Alors reste une question cruciale et sans réponse dans ce nauséabond mélange d'accords commerciaux et de gestion des flux migratoires. Celle du statut et donc des droits des étrangers relocalisés de force dans ces pays qui parfois ne sont pas exemplaires en termes de droits humains.
Merci Fabienne Lemayeux. L'enquête sur les deals migratoires de Donald Trump en Afrique est à retrouver sur le site lacroix.com et dans le quotidien La Croix de lundi. Et vous Fabienne, où est-ce que l'on vous retrouve désormais ?
Toujours à La Croix, dans les colonnes et sur le site.
C'est bien noté. Belle rentrée à vous alors. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain même heure pour une émission consacrée aux dérives des lives sur Internet. Bonne suite de programme sur France Culture.